d'ouvrir vos Bibles dans la prophétie de Malachie. Alors, il y a deux chemins pour la trouver. Soit vous ouvrez à Genèse et vous tournez les pages une par une. Alors, si c'est votre chemin de choix, ben nous vous souhaitons bon voyage, hein. Et sinon, vous trouvez le début du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1, et vous tournez vers la gauche et vous allez tomber tout de suite sur Malachie, parce que Malachie, c'est le dernier des prophètes avant Jean-Baptiste. Donc, le Seigneur qui avait choisi Malachie le savait. Malachie lui-même peut-être ne le savait pas, le peuple ne le savait pas. Mais de notre point de vue, nous le savons. Et donc, il nous offre une perspective qui englobe l'Ancien Testament, mais aussi qui ouvre la voie à au messager de Christ et au Christ lui-même. Alors, nous voulons relire ces premiers 5 versets qui nous servent de texte aujourd'hui. Malachie chapitre 1, et puis le premier verset. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Et puis c'est l'Éternel qui reparle ici. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons nos ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront. Et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Amen. Ça, c'est la parole, l'oracle de l'Éternel. Nous avons ce qu'on retrouve plusieurs fois dans ce texte, ce que nous pouvons appeler une disputation. Hein, vous savez tous, j'imagine, ce que c'est des disputes. Et je vous donne les 4 parties ici, nous les reverrons tout à l'heure. Mais il y a d'abord une déclaration de la part de Dieu. Et puis tout de suite de la part du peuple, il y a une remise en cause. Ils vont questionner la véracité de ce que Dieu vient de leur dire. C'est pour ça que ils vont disputer en fait avec Dieu. Et puis Dieu revient dans sa grâce avec une argumentation pour défendre sa déclaration qu'il a faite. Et il suit de cette argumentation une implication ou une application et qui est tirée par le peuple. Il dit en fait au verset 5, vous direz, vos yeux le verront et vous direz, vous tirerez vous-même l'application ou l'implication. Et cette implication va servir de preuve à la déclaration qui a été faite au début. Donc c'est pour ça qu'il y a la flèche qui revient au début. Donc Dieu fait une déclaration, après c'est remis en cause par le peuple, après c'est argumenté par Dieu, après le peuple comprend, ils font la bonne implication, et puis ça prouve donc ce que Dieu a dit au début. Donc, c'est les points que nous allons regarder aujourd'hui. D'abord, il y a donc la déclaration. La déclaration de Dieu à son peuple. Regardez-le, c'est le premier verset et la première partie du deuxième verset. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Ça sert d'entête pour tout le livre, en fait. Et voici la déclaration. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. C'est parfaitement en phase avec notre thème d'adoration ce matin, n'est-ce pas? Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Ça, c'est le message de notre texte. Alors, c'est pas très compliqué, non, comme message. Imaginez que si j'arrêtais le message là, et on rentrait tous chez soi. Bon, certains seraient peut-être contents. Mais, est-ce que vous serez tous satisfaits? C'est-à-dire, est-ce que vous serez tous convaincus, soulagés, réconfortés dans vos esprits? Est-ce que cela seul suffirait à éradiquer tous vos doutes? Ah, maintenant j'ai plus de doutes. J'ai entendu l'oracle de Dieu, la parole de Dieu, et Dieu m'a dit qu'il m'aime. J'ai plus de doutes. Alors, je vous demande de prendre un problème. Disons le plus grand problème dont vous avez dû faire face, peut-être même cette semaine. Hein, donc, prenez quelque chose dans votre esprit, dans votre pensée. Et d'un côté, vous avez donc ce problème. Et en face de ce problème, vous avez cette déclaration. Oracle de l'Éternel, parole de l'Éternel, aux membres de l'Église baptiste de Saint-Denis, par Malachie, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Voilà, c'est résolu. Est-ce que vous êtes satisfait maintenant? Il n'y a rien de plus. Est-ce que vous partirez encouragé, fortifié, soulagé, affermi dans votre foi, la joie dans votre cœur, un chant dans votre bouche? Parce que vous avez entendu la parole de Dieu. Et il vous aime. Alors, si oui, ben vous pouvez partir à l'instant. Hein. Vous n'avez besoin de rien de plus. Et à vrai dire, cela devrait suffire, n'est-ce pas? Oracle de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Quoi de plus sûr qu'une parole de l'Éternel. D'un côté, j'ai la parole de l'Éternel. De l'autre côté, j'ai mon problème. Qu'est-ce qui gagne? Ça devrait être toujours la parole de Dieu. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui me pousse à une confiance ou est-ce que c'est mon problème qui me pousse à douter? Alors, je nous demande tous de faire peut-être une petite introspection de nous sonder, de nous examiner nous-mêmes. Et franchement, je pense que si on s'arrêtait là, nous partirons presque tous en disant, d'accord, Dieu m'aime, mais... Ou peut-être d'autres, si Dieu m'aime, pourquoi? Ou aimer, je sais ce que c'est, mais... Si Dieu m'aime, il a une drôle de façon de m'aimer. Ou peut-être en quoi ou comment Dieu nous aime-t-il? Et je vous invite à regarder la réponse du peuple à cette déclaration de Dieu. Il dit au verset 2, la deuxième partie du verset 2, « Et vous dites quoi? En quoi nous as-tu aimés? » Ça, c'est la remise en cause du peuple. Ils vont remettre en cause l'amour de Dieu en disant, en quoi nous as-tu aimés? Et ça, c'est, à vrai dire, la mentalité moderne. Rien n'a changé en 2016. L'homme se croit toujours supérieur à Dieu et il juge Dieu selon sa propre moralité. Vous avez vu ça dans le monde? L'homme ne se juge jamais selon la moralité de Dieu. On n'aime pas se juger selon la moralité de Dieu, mais on aime beaucoup juger Dieu selon notre moralité. Si Dieu est bon selon mes idées de bon, pourquoi fait-il ainsi? Et c'est exactement ce que fait ce peuple de Dieu en Malachie, et cela revient pas moins de 7 fois dans ce petit livre, ils vont questionner, remettre en cause la parole de Dieu. Regardez dans vos Bibles au verset 6, de Malachie chapitre 1. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Vous voyez ça? En quoi avons-nous méprisé ton nom, pardon? Et puis regardez le verset 7 du même chapitre. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Regardez chapitre 2, verset 13. C'est pas loin, hein? Regardez avec vos yeux là. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel des pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Regardez le verset 17, Malachie 2, 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est un peu comme l'enfant, le parent lui dit, mais arrête de dire pourquoi, et l'enfant dit, pourquoi? Hein? Et Dieu dit, mais vous me fatiguez avec vos paroles, et tout de suite ils reprennent la parole et disent, pour dire, ben, pourquoi t'avons-nous fatigué avec nos paroles? Regardez chapitre 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observés, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Regardez le verset 8. Un homme trempe-t-il Dieu, car vous me trempez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trempé? Vous voyez cet esprit de contestation avec Dieu? Il refuse d'accepter soit les accusations que Dieu porte contre eux, hein, quand Dieu dit « vous êtes ainsi », ils disent « mais comment ça ?» Soit de l'autre côté, les affirmations que fait l'Éternel de lui-même. « Moi, je vous aime. Oh, » comment ça tu nous aimes? Ils veulent rien croire. Ils veulent tout contester. Ça, c'est l'esprit humain. Mais ça, il faut le noter, c'est un péché. Et si on arrêtait notre message à ce point, la déclaration divine et la remise en cause de la part de l'homme? Mais dans sa grâce, Dieu répond. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu, de répondre à une telle remise en cause, à un tel doute. Ils exigent de Dieu qu'il prouve son amour, et dans son amour, il leur répond. Et c'est ça que nous voyons donc en troisième, l'argumentation qui vient donc de Dieu. J'ai mis en jaune ce qui vient de Dieu, en blanc ce qui vient de l'homme. Dieu va leur parler. Cela me fait penser de ce que Dieu a dit en Ésaïe chapitre 1, verset 18. « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. » Quelle grâce de la part de l'Éternel. Il veut les convaincre, tout comme il veut vous convaincre ce matin qu'il vous aime. Il veut que vous soyez convaincus. Alors regardez-le encore, Malachie chapitre 1, verset 2. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » La réponse, vous dites, « En quoi nous as-tu aimé ?» Puis Dieu reprend donc la parole et dit, « Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. » Si Édom dit, alors je m'arrête juste une seconde pour dire, Jacob devient la nation de quoi? D'Israël. Mais Ésaü devient la nation de Édom, donc c'est très lié à Ésaü. Donc quand il parle d'Édom, il parle de Ésaü dans la suite du temps, si vous voulez, le peuple d'Ésaü. Si Édom dit, verset 4, nous sommes détruits, c'est-à-dire malgré le fait que nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi par l'Éternel des armées qu'ils bâtissent, je renverserai et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Ça, c'est l'argumentation de Dieu. Au verset 2, vous dites, « En quoi nous as-tu aimés ?» Et Dieu répond en leur rappelant un peu leur histoire. « Ésaü n'est-il pas frère de Jacob ?» dit l'Éternel. Et là, nous sommes introduits à un phénomène très intéressant dans l'histoire du peuple de Dieu. Jacob a eu 12 fils, n'est-ce pas? Et combien de ces 12 fils ont hérité d'une façon ou d'une autre la bénédiction de Jacob? Tous les 12. C'est pour ça que nous avons par la suite combien de tribus? 12. Mais Isaac a eu 2 fils. Hein, il fait mention ici, Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Combien de ses fils ont hérité sa bénédiction? 1 seul. Et on peut dire la même chose en fait d'Abraham, qui a eu plusieurs fils par plusieurs femmes. Néanmoins, ce n'est qu'avec Isaac que l'alliance a été faite. Donc voici 2 frères, et Dieu dit cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Alors, il faut qu'on parle de cette haine de Dieu contre Ésaü. Et ce que nous voyons dans ces 2 frères, c'est que Dieu a un amour exclusif. Il a un amour exclusif. Il aime certains, il choisit certains, tandis qu'il est et rejette d'autres. L'amour entre mari et femme est toujours un amour exclusif. J'aime ma femme, et en prenant ma femme comme femme, je rejette tous les autres choix possibles. Et Dieu a cet amour exclusif pour son peuple, et pour Jacob, et pour Israël. Et certains ont du mal avec le fait que Dieu puisse haïr certaines personnes. Alors je sais que personne ici a du mal, parce que vous l'avez même chanté ce matin. Vous avez dit, nous étions dignes d'être quoi ? D'ailleurs, j'ai dit, bon, ils n'auront pas de problème donc avec ce verset. Ils viennent de le chanter. Mais si on se demande, qu'est-ce que c'est la haine de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu est Ésaü? Je pense que la réponse est dans le texte lui-même. Regardez le verset 4, la fin du verset 4. Il parle d'Ésaü, donc dans la suite du temps, comme Édom, et il dit que c'est un peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Hein, irrité, c'est un mot pour sa colère. Contre laquelle il est en colère, on pourrait dire, pour toujours. Et le psaume 9, verset 12 dit, Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps, ou un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. Donc, il faut garder cela en esprit, que la doctrine de la haine de Dieu n'est nulle autre que la doctrine de la colère de Dieu. La haine de Dieu, c'est sa colère contre les hommes. Et tout ce que je puisse dire là-dessus, c'est que si vous ne croyez pas dans la colère et la haine de Dieu, vous ne croyez pas dans l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer si ce n'est pas dû à la colère et à la haine de Dieu contre le pécheur? Si Dieu est en colère contre personne, eh bien l'enfer est un mythe. Mais Romains 1, 18 dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. La colère de Dieu se révèle. Au chapitre 2 de Romains, versets 7 et 8, il dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. mais il réserve l'irritation et la colère à ceux, donc c'est une colère personnelle, hein, contre ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Il leur réserve sa colère. Et bien sûr, on peut lire plusieurs endroits en Apocalypse de la colère de Dieu. Je vous lis Apocalypse 6, 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, tous les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, c'est beaucoup de monde là, hein, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. » Il parle de Jésus. Et devant quoi? La colère de l'agneau. On parle de la grâce et l'amour de l'agneau. Mais il y a aussi la colère de l'agneau. Car le jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Encore en Apocalypse chapitre 14, il dit ceci, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, c'est-à-dire sans pitié. Hein. Dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Et il sera tourmenté, la Bible dit, devant, en face même, de ses regards de haine des anges et devant l'agneau, devant les regards de haine de l'agneau. Effectivement, comme dit le psaume 9, Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. C'est peut-être pas très beau, mais c'est la vérité. Mais quelqu'un nous dit, Dieu a démontré sa colère envers Ésaü depuis son offense, voire depuis le ventre de sa mère. C'est donc perdu d'avance avec Dieu. Et dans un sens, c'est vrai, c'est perdu d'avance. Car tous ont péché en Adam. Nous sommes tous, la Bible dit, nés pécheurs. C'est-à-dire nés sous la haine et sous la colère de Dieu. La haine et la colère de Dieu n'est pas quelque chose qui tombe sur nous à l'âge de 4 ans, ou de 10 ans, ou de 20 ans. Selon la Bible, nous sommes nés sous la colère de Dieu. Depuis le ventre de notre mère, David l'a bien dit au psaume 51, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et donc, il est né dans cette position de rebelle contre Dieu et la haine et la colère de Dieu contre lui. Mais qu'est-ce que Dieu fait contre ceux envers qui il est en colère? Qu'est-ce que Dieu fait? Envers ceux contre qui il est en colère. Romains chapitre 1 nous donne la réponse. Et savez-vous ce qu'est la réponse? La Bible dit il est livre. Il est livre à qui? Il est livre. Selon Romains 1, il est livre à quelqu'un, et c'est qui ce quelqu'un? Je vais vous le montrer ici. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de quel cœur? Leur cœur. Dieu les livre à eux-mêmes. Le verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, et les passions sont des passions qui proviennent d'eux-mêmes. Et le verset 28, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés. Il leur livre à leur propre intelligence, à leurs propres passions et à leurs propres convoitises. Dieu les laisse aller. Les proverbes parlent d'un père qui est son fils. Il dit que le fils qui ne discipline pas, c'est un fils que le père est. Pourquoi? Parce qu'il le laisse aller. Il le livre à lui-même. Et c'est exactement ce que Dieu fait contre ceux envers qui il a de la haine et de la colère. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec Ésaü. Lisez l'histoire, hein. Je ne vais pas vous le lire, mais je crois que vous le connaissez. Dieu a livré Ésaü à lui-même. Mais quelle est la base juridique pour laquelle Ésaü n'a pas reçu la promesse de l'alliance? Pourquoi est-ce que Ésaü n'a pas reçu la promesse de l'alliance? Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible dit Ésaü voulait le droit d'aînesse, mais le pauvre, il n'avait pas de chance parce que Dieu l'haïssait. Hébreux chapitre 12 dit qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets, un petit repas, vendit son droit d'aînesse. Il le vendit. Et il sera pour Ésaü, comme pour tous ceux décrits en Romains chapitre 1, ils seront jugés selon leurs œuvres. Et c'est ça le rôle de la loi. La Bible dit en Romains chapitre 3, verset 19, nous savons que tout ce que dit la loi, dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alors, sachez-le bien, n'ayez aucun doute de ce fait, tous ceux qui sur qui tombe la haine et la colère de Dieu, auront la bouche fermée. Ils ne pourront rien dire. Ils ne pourront pas dire, c'est pas juste, regarde-moi, je suis innocent. Non, la Bible dit que vos œuvres, si vous faites partie de ce groupe, vos œuvres, c'est-à-dire vos paroles, vos attitudes, vos pensées, rendront témoignage contre vous. Que vous avez méprisé la grâce de Dieu, que vous avez vendu sa bonté envers vous, que vous méritez la colère et la haine éternelle de Dieu. Donc, en fin de compte, nous n'avons pas besoin de défendre Dieu pour sa haine et sa colère contre Ésaü. C'est très clair dans la Bible quel type d'homme il fut. Il méritait, il était digne d'être haï. Dieu l'a livré à lui-même et donc il a démontré dans sa vie qu'il était digne d'être haï. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est l'amour de Dieu pour Jacob. Expliquez-moi cela. Défendez-moi cela selon l'idée que nous méritons ou ne méritons pas la bonté de Dieu. Voici ce qui est encore plus surprenant, pas que Dieu haït ou hait Ésaü, mais qu'il aime Jacob. Et en fait, la première fois que nous trouvons ce mot aimé dans la Bible, c'est dans un contexte où un certain fils est distingué. Genèse chapitre 22, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Dieu parle, bien sûr, d'Isaac. Et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est le même mot ici. Et rappelons-nous qu'Abraham avait déjà un autre fils, Ismaël. Mais voici le fils qu'il aime. Il y a une distinction qui est faite ici. Nous retrouvons encore ce mot dans un contexte où un choix entre deux est fait en Genèse 25. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Ils avaient tous, chacun leur favori. Et c'est le même mot que Dieu utilise pour son amour pour Jacob. On trouve un autre exemple au chapitre 29. Vous connaissez peut-être l'histoire de Jacob qui aimait Rachel. Jacob alla vers Rachel qui l'aimait plus que Léa. Un choix qui est fait. Nous retrouvons encore dans la vie de Jacob. La Bible dit que Jacob, ou Israël, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Encore le même mot. Il a un amour particulier pour Jacob. Et ce qui est très intéressant, quand cet amour préférentiel de la part de l'homme, quand on parle de cet amour préférentiel de la part de l'homme, il y a, j'ai toujours trouvé en tout cas, une explication, une raison. Prenons par exemple l'amour d'Isaac et de Rebecca pour leur fils. Okay? La Bible dit que ces enfants grandirent, Esaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes, il restait à la maison. Isaac aimait Esaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Alors, c'est dit clairement pour Isaac, hein. Isaac aimait Esaü parce qu'il lui amenait du gibier. Mais c'est sous-entendu pour Rebecca. Isaac était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Et tout de suite après, il dit que, bon, Rebecca aimait Jacob. On sent la raison pour laquelle il y a ces préférences entre ces deux fils. Prenons l'amour de Jacob pour Rachel. Il y avait une raison, une bonne raison selon lui. Laban avait en fait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles. Alors je ne sais pas ce que c'est des yeux fragiles, mais il n'a pas apprécié Jacob en tout cas. Tandis que Rachel était belle à tout point de vue, Jacob aimait Rachel. Prenons l'amour de Jacob pour Joseph. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. L'amour préférentiel de l'homme pour un autre trouve sa source dans l'autre. Le jeune homme dit à la jeune femme, « Je t'aime car... » Et ce qui suit est toujours le pronom quoi ? Le deuxième pronom, deuxième personne. « Tu » ou « toi » car « tu es » ou... Voilà, je t'aime parce que je trouve en toi raison de t'aimer. Dieu est un Dieu qui montre un amour préférentiel. Il faut l'accepter. Que dit notre texte ? Pour revenir à Malachie chapitre 1. Esaü n'est-il pas frère de Jacob ? Dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Esaü. Osée 11 chapitre 10. Dit, quand Israël était jeune, je l'aimais. Je l'aimais. Et on peut se demander donc pourquoi cet amour préférentiel pour Jacob. Alors on sait pourquoi Rebecca a aimé Jacob plus qu'Ésaü, on sait pourquoi Isaac a aimé Ésaü plus que Jacob, mais pourquoi cet amour préférentiel de la part de Dieu pour Jacob? Et ça c'est très important à saisir. Et alors, au lieu de montrer sur l'écran, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles en Deutéronome. Nous allons lire quelques passages en Deutéronome qui se suivent. Je demande même aux jeunes, aux adolescents, si vous avez vos Bibles, de trouver Deutéronome chapitre 7. Et on va lire les versets 6 à 9. Donc, Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 6. Et on veut se poser la question, mais pourquoi Dieu aime Jacob ? Et pourquoi Dieu aime Israël par la suite? Où est l'explication? Est-ce qu'il y a quelque chose en Jacob qui a attiré l'attention de Dieu vers lui et qu'Ésaü n'a pas eu? Et Deutéronome chapitre 7 et verset 6 dit, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Donc Dieu t'a choisi. Verset 7. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. Ah, donc si vous pensez que c'était ça, bon, il faut l'éliminer, cette option. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous, quoi ? Vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment l'alliance qu'il a faite à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par la main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Alors, regardez le chapitre 9, Deutéronome chapitre 9, à partir du verset 4. C'est Moïse qui prêche, hein, ce peuple dans le désert, juste avant d'entrer, juste avant sa mort, et il dit, Deutéronome 9, verset 4, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura chassés devant toi, ses ennemis, ne dis pas dans ton cœur, ah, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. J'ai trouvé l'explication. Voilà pourquoi Dieu nous aime. Mais regardez-moi. C'est à cause de ma justice. En effet, Dieu continue, c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Donc s'il les chasse, c'est parce qu'ils sont méchants, pas parce que tu es gentil. Verset 5. Non, ce n'est pas à cause de ta justice ou de ta droiture, de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays à posséder. Alors vous avez compris, il le répète trois fois. Il le répète trois fois. Ce n'est pas à cause de toi. Et si tu veux la preuve, ben, tu es un peuple réfractoire. Terre, pardon. Et après, ce qu'il fait, regardez le verset 7. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de Dieu ton Dieu, la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert depuis le jour où tu es sorti d'Égypte jusqu'à votre arrivée ici. Vous êtes révoltés contre l'Éternel. Et ce qui suit, tout le chapitre qui suit, c'est exemple après exemple après exemple après exemple de leur péché. Vous avez péché à cet endroit. Et puis on a déménagé, vous avez péché là aussi. Et puis on est arrivé à ce point, et là vous avez péché encore. Et vous rappelez, vous avez aussi péché là. Il leur raconte toutes leurs bêtises, tous leurs péchés contre Dieu pour prouver le fait que si vous entrez maintenant dans le pays promis, ce n'est pas à cause de vous et de votre gentillesse et de votre justice. Pourquoi donc cet amour obstiné pour Jacob et ses descendants? Pourquoi? Parce que quand ils arrivent, il y a Édom qui est en face, qui doit être mis à part. Pourquoi cet amour obstiné de la part de Dieu pour Jacob et pas pour Édom? Regardez le chapitre 10, Deutéronome chapitre 10, et les versets 14 et 15. Deutéronome 10, 14. Voici à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Ça nous dit que Dieu est souverain sur toute chose. C'est-à-dire, il peut faire ce qu'il veut. Il est en train de dire, tout m'appartient, je peux faire ce que je veux. Verset 15. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a choisi d'entre eux tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. On a lu ce matin, quelqu'un a lu que, voilà, j'ai donné Égypte, j'ai donné ces autres pays comme rançon pour vous. Je vous ai choisi, j'ai rejeté ces autres pays. Et il n'y a pas d'autre explication que celle-ci. Dieu peut tout faire, c'est le verset 14, et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Dieu peut tout faire, et il vous a choisi, et il vous aime. Ça, c'est l'explication. Pourquoi Dieu nous a choisis? Dieu peut tout faire, et il vous a choisi. Et il vous aime. Mais surtout, surtout, ne pensez pas que la raison se trouve en vous, en votre justice. Et alors, il y a encore un texte qu'il faut regarder ensemble, c'est le chapitre 9 de Romains. Donc, dans le Nouveau Testament, chapitre 9, et vous allez voir pourquoi. Il fait référence à un autre texte en Malachie. Romains, chapitre 9, et je commence au verset 6. Et vous pouvez me rejoindre au fur et à mesure. Il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Preuve. Il est dit, en Isaac tu auras une postérité, c'est-à-dire pas dans l'autre, appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ce n'est pas simplement le fait d'être fils d'Abraham, parce que Ésaü est aussi fils d'Abraham. Ismaël est aussi fils d'Abraham. Regardez le verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il fut ainsi de Rebecca. Donc là, On est dans la génération suivante qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés. C'était jumeaux, hein. Et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, verset 12, quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, c'est-à-dire Ésaü sera le serviteur de Jacob. Dieu avait dit ça à Rebecca avant même la naissance de ses jumeaux. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et ça, c'est écrit où? Malachi chapitre 1, versets 1 et 2. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Ce n'est pas la volonté de l'homme, ce n'est pas l'action de l'homme ou la force de l'homme, mais c'est de Dieu qui fait miséricorde. Dieu a aimé Jacob parce que Dieu peut tout faire et il a choisi Jacob. Même si Jacob est aussi vilain parfois que son frère. Dieu a aimé Timothée parce que Dieu peut tout faire, il a choisi Timothée. Ce n'est pas parce qu'il a vu quelque chose en lui. C'est ce que la Bible appelle la grâce. La grâce. Posez la question à un chrétien. Pourquoi êtes-vous sauvé? Ils ne vont pas dire parce que je. Ils ne vont pas dire ça. Ils vont dire c'est pas grâce. Je ne suis pas mieux qu'Ésaü. Alors pour revenir à notre texte, pour bientôt finir le message, voici donc l'argumentation de Dieu. Vous remettez en cause mon amour pour vous, alors, rappelez-vous, Jacob avait un frère, mais mon amour est tombé sur Jacob et la nation d'Israël, ma haine est tombée sur Ésaü et la nation d'Édom. Vous verrez donc que mon salut, c'est ça le point, il faut suivre, mon salut est donné à ceux que j'aime, mais ma colère tombe sur ceux que je hais. C'est ce qu'il dit là, en Malachi chapitre 1, j'ai la haine pour Ésaü. Et je vais faire de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Et même s'ils disent, bon, quand même, on vaincra, soyons positifs. Ainsi par l'Éternel des armées qui bâtissent, je renverserai, on les appellera le pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est en colère pour toujours. Et ceci est encore vrai de nos jours, mes amis, que le salut de Dieu est donné à ceux qu'il aime, et le jugement et la colère de Dieu tombe sur ce qu'il est. Et donc, l'implication de tout cela, on arrive à la fin, l'implication qu'ils doivent tirer de cela, c'est au verset 5. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. C'est-à-dire, Dieu contrôle pas simplement ici en Israël, Dieu contrôle partout. Dieu est un Dieu international, si vous voulez. Il contrôle la vie de ceux qu'il aime, mais aussi la vie de ceux qu'il hait. Et donc l'implication, c'est que Dieu est souverain sur toute chose. Quand vous verrez le salut de Dieu apporté à Israël, et quand vous verrez la condamnation de Dieu tomber sur Édom, alors vous direz, grand est l'Éternel. Il est souverain sur toute chose. Et vous savez, c'est cette distinction que Dieu fait entre les hommes qui prouve son amour. Abraham a dit à Dieu en Genèse 18, 25, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il ne soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? C'est-à-dire, si Dieu traite tout le monde pareil, il n'est plus juste. Paul dit en 1 Corinthiens 15, 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » C'est-à-dire, s'il n'y a pas de distinction faite après cette vie, s'il n'y a pas de distinction, si tous reçoivent les mêmes démonstrations d'amour de Dieu, eh bien, Dieu ne nous aime pas, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. L'amour de Dieu pour nous est démontré par le fait que pendant toute l'éternité, il y aura au ciel, il y aura à la fois un ciel et un enfer. C'est ça qui prouvera pendant toute l'éternité que Dieu nous aime. Parce qu'il y aura à la fois sa colère qui est versée sur certains, mais sur d'autres son amour. Et on ne saura pas l'expliquer. Pourquoi je suis là et pas là-bas? L'amour de Dieu est exclusif. Jésus aime sa femme. L'Église est la femme de Christ. Et donc la seule question qui demeure, faites-vous partie de son Église? Alors je tire simplement deux applications. Application pour tous ceux qui sont aujourd'hui en dehors de Christ. Si vous êtes en dehors de Christ. Genèse 25, 34 dit, « Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Et c'est ainsi qu'Ésaü, connaissez le verbe ? Méprisa le droit d'aînesse. Il avait un droit. Il aurait pu l'utiliser. Il avait une offre sincère de la part de l'Éternel. Mais il a méprisé, il a vendu pour le repas de son frère. Imaginez ça. Hébreu l'appelle un débauché et un profane, car il a vendu son droit pour un seul repas. Quel mépris pour l'offre que Dieu lui a sincèrement offert. Alors vous pouvez fabriquer des excuses ici sur terre, mais je vous promets que devant Dieu, vous n'aurez pas d'excuses. Il sera clair et incontestable que vous avez méprisé l'offre du pardon et du salut, que vous avez tourné le dos à son invitation sincère qu'il vous donne. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Hébreux 4 nous dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendaient. Il faut qu'il y ait de la foi. Et puis la deuxième application donc à tous ceux qui sont en Christ. Si nous sommes tentés de remettre en cause l'amour de Dieu pour nous, pensez à tout ce que Dieu a déjà fait pour nous en Christ. Pensez à ces paroles d'un Pierre 1, 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous avez un héritage qui vous est réservé pour vous, qui portez le nom de Christ. Alors ne doutez pas son amour. Si cela ne prouve pas que Dieu vous aime, où pourrait-on trouver de preuves? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Que Dieu nous aide à ne pas douter de son amour exclusif qu'il a pour nous, son peuple. Seigneur, merci pour ce texte. Et nous prions que tu, vraiment le travail dans nos cœurs, que tu nous pardonnes d'avoir si souvent questionné et remis en cause ton amour pour nous, parce que les choses ici sur terre ne vont pas comme nous aurions voulu. Tu as déjà fait tellement de choses pour nous. Et nous avons ces très belles promesses qui nous attendent dans le ciel, Oh, empêche-nous de douter de ton amour. Et je prie pour ceux qu'aujourd'hui méprisent ces promesses, méprisent ces offres de salut, méprisent aussi ces avertissements contre la colère et le jugement de Dieu qui tombera sur eux. Seigneur, aie pitié d'eux, comme tu as eu pitié de nous. Et sauve-les, nous te prions. Amen.